Bonjour tout le monde, comment ça va bien dans la chatroom? J'arrive tout de suite, il faut d'abord que je retweete un truc. Que je retweete le Techscope de ce matin. Hop. Et voilà, c'est retweeté. Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien réveillés dans la chatroom. Salut Romuald, Technisavoir. Antoine, Olek, Samuel, Choussey, Seb, Thierry, Pluginmay, Batix, Damien, Geoffrey, Nat, Victor, Antoine, Mathieu, Baptiste, Nirvana Zero, J. Pulmo, Théo, Damien. Ah oui, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, Damien, effectivement. Mathieu, Victorious Big, Émile, Kylian, Charles-Henri, Mathias, Samuel, déjà dit, KFC, Joseph, Oxo, Charles, Atomix, Denis, Frédéric, Alain, Gerlando, Hippomi, Pedro, Migo, Florian, Ricudo, Laurent, Philippe, Florian et Florian, Laurent, Zélie, Olivier, François, Siane, les petits génies, Perata, Geoffrey et tous les autres, déjà une centaine, même plus de 100 dans la chatroom. Bon pied, bon oeil, bien réveillé ce matin. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez bien dormi. J'espère que votre café, votre thé, votre lait chaud, votre chocolat chaud est bien dans la tasse. On va pouvoir commencer ce Techscope et on va commencer par le sommaire. Je vais vous parler un petit peu de l'IFA. Et oui, j'y suis avant tous les autres. Non, je plaisante. J'y vais pas à l'IFA. Je vous le dis tout de suite. Mais on va quand même parler de l'IFA. On parlera justement de l'histoire un petit peu de l'IFA. D'où ça sort l'IFA. Et est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est encore utile l'IFA? Et parce que vous le savez, il y a beaucoup d'annonces qui se font hors de l'IFA maintenant. Mais justement, on reviendra là-dessus et on reviendra notamment sur les 5 smartphones qui sont le plus attendus cette année à l'IFA. Il y a plein d'autres choses que des smartphones, mais on va déjà commencer par les 5 smartphones les plus attendus d'après nos collègues de Phone Android. C'est un article de Phone Android que je vais prendre. On parlera ensuite d'Iconic, la première smartwatch de Fitbit. Mon Dieu, quelle est laide. J'ai déjà spoilé l'article. On parlera également du Meizu Pro et le Pro 7 Plus qui sont officiels en France, qui ont été lancés, je crois, hier. Je crois que j'étais invité à la soirée, j'y suis pas allé, mais c'est pas grave. Mais ils sont disponibles à la précommande et on reviendra. Ils ont une petite particularité assez intéressante, ces smartphones. On en parlera un petit peu. On parlera également d'une histoire un petit peu plus dramatique, notamment pour vous qui êtes développeurs, ceux dans la chatroom qui travaillaient en développeur. Il faut savoir qu'un ingénieur a été condamné pour, dans l'affaire Volkswagen, vous savez, les comptes rendus truqués pollution Volkswagen, eh bien, un ingénieur a été condamné pour le programme qu'on lui a demandé de concevoir. En gros, si votre patron vous demande quelque chose, faites gaffe. Vous risquez d'être responsable derrière. On parlera également de Sarah A. Sarah A, oui, c'est comme ça qu'on le prononce. Nouveau phénomène chez les ados, parce qu'il faut le savoir, hein, Snapchat, c'est complètement ringard, maintenant c'est pour les vieux. Maintenant, il faut être sur Sarah. Mais faut-il l'être vraiment? N'y aurait-il pas un petit problème? Et oui, il y a un petit problème de collecte de données, comme bien souvent. On en parlera justement à ce moment-là. Et on terminera le Techscope en parlant de la police de New York. Mais vous allez peut-être trouver ça un petit peu étrange, parce que pourquoi on va parler de la police de New York? Eh bien, ils vont remplacer leurs 36 000 Windows Phone par des iPhones. Mais vous verrez qu'à travers cette news, je fais une petite déduction. On va dire une petite supputation. On y viendra en fin d'émission. Et j'ai fait des jolies rimes. Le sommaire est déjà sur le Slack, Samuel est plus. Alors, juste Samuel, pour l'ordre du sommaire, Iconic s'est mis en premier, j'arrive pas à le déplacer dans les autres, mais il vient après. On commence par l'IFA. Voilà. Voilà, j'espère que vous allez bien. Ça y est, il y a plein de monde dans la chatroom. Sarah, oui, t'es perdu. Non, mais Snapchat, c'est fini, Snapchat. C'est fini. Tu peux déguerpir, Nat. Ou alors, t'es déjà vieille. Si vous êtes encore sur Snapchat, vous êtes trop vieux. Ah, moi, je suppute dès le matin. Moi, je suppute tout le temps, moi. D'accord, tu referas l'ordre. OK. Tu viens de trouver 5 euros. Une bonne journée qui commence. Bravo à toi, Florian. Allez, on va commencer tout de suite ce Techscope numéro. Putain, j'ai un vieux boot là qui vient de me retweeter le Techscope 228. Il est un peu en retard. Hein. Il est un petit peu en retard. C'est le 539 aujourd'hui. Baptiste, merci beaucoup pour ton super chat de 50$ canadiens. Merci énormément à toi. Ah, ça doit être Fred ou quelqu'un qui est sur le compte Samuel Live. C'est pas moi, hein, le compte Samuel. Le compte Naotech Live. Merci beaucoup, Baptiste, en tout cas, pour ton super chat. On commence tout de suite. On va parler effectivement de l'IFA. L'IFA va se tenir du 1er au 6 septembre, donc j'en parle un petit peu en avance. Mais certains d'entre vous ne savent peut-être pas ce que c'est que l'IFA. Donc, on va faire un petit historique de l'IFA parce que c'est quand même un salon qui date. C'est un salon qui existe depuis très très longtemps. C'est un salon qui a commencé la première fois le 4 décembre 1924. Ouais, ça date quand même, hein, 1924. Il y avait la tech, c'était pas celle d'aujourd'hui. Hein. Au début, c'était surtout axé sur l'électroménager, parce qu'effectivement, les années 20, c'est vraiment le début de l'électroménager. Et la radio. La radio était le top de la technologie à l'époque. D'ailleurs, petite anecdote, hein, et vous allez voir à quel point je parle merveilleusement bien allemand. À l'origine, l'IFA se nommait Grote Deutsche Funkausstellung. Funkausstellung. Grote Deutsche Funkausstellung. Hein? Pourrait sortir ça dans votre prochain dîner en ville. Ah, mais tu sais, l'IFA, ça se prénommait Grote Deutsche Funkausstellung. Je le sais. Soit, d'ailleurs, les plus germanophones d'entre vous auront bien sûr traduit « Grand salon allemand de la radio ». Yeah. Le salon a accueilli alors 242 participants venus présenter leurs derniers produits et 180 000 visiteurs. Donc déjà, un beau succès dès le début. En 1928, on a commencé à voir les téléviseurs qui ont débarqué à l'IFA. De 1926 à 1939, c'était vraiment les technologies de l'époque avec beaucoup d'inventeurs. Mais effectivement, de 1939 à 1950, ça s'est arrêté. Seconde guerre mondiale, ça vous dit peut-être vaguement quelque chose. Disons que à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, les Allemands avaient plutôt décidé d'envahir les autres pays européens avec leur technologie en faisant des démonstrations directes. Hein, direct dans les pays, c'était un peu du porte-à-porte en fait, façon allemande. C'est horrible ce que je dis, c'est pas très drôle en plus. En 1950, c'est le retour de l'IFA, mais dans plusieurs coins d'Allemagne, parce qu'il y avait le mur à Berlin, c'était pas forcément le meilleur coin pour le faire. Grand comeback en 1971, le salon s'est intéressé petit à petit au multimédia et aux nouvelles technologies. C'est en 1995 que l'IFA s'est définitivement tourné vers l'univers du multimédia. Et depuis, le salon accueille des exposants issus de l'électronique grand public. Effectivement, les moments forts de l'IFA dans l'histoire, donc dans les années 30, c'est la télé qui attirait tous les regards. Et c'est en 1931 que l'inventeur allemand Manfred von Arden, Ardennes, Allemagne, hein, c'est un coin qu'ils aiment bien visiter, a fait sensation en démontrant le premier tube cathodique. Hein, les plus jeunes d'entre vous ne savent pas ce que c'est qu'un tube cathodique. À l'époque, on avait peur des télés parce qu'elles pouvaient nous exploser à la gueule. Et oui, ça vous connaissez peut-être plus. Ça équipait quand même nos téléviseurs jusqu'à 2005. Il y avait encore des cathodiques en 2005. Équiper nos téléviseurs jusqu'à l'avènement des... Oui, il y a eu des cathodiques après. Hein. Parce que le LCD, oui, est arrivé... Ouais, bon. Dans les années 30, il y a eu effectivement la première télévision en couleur en 1937, le premier magnétoscope en 1935, et le premier téléviseur à un prix abordable en 1939. Toi, tu as encore une télé cathodique. Oui, elles implosaient, mais enfin, ça pouvait faire mal quand même. Mais les gens n'hésitaient pas à les jeter dans la rue, quitte à ce que ça explose dans la rue à la tête des gens, hein. Également 1962, le premier cassette audio par Philips. Et en 1967, les premières émissions de télévision en couleur à l'échelle nationale. Le compact disque, les CD, 1981, ça je m'en souviens. Enfin, je ne me souviens pas de l'IFA, hein, parce que j'étais un peu jeune à l'époque. Mais je crois que j'ai eu mon premier lecteur de CD. Ça devait être 83-84. C'était fou comme technologie à l'époque. Vous vous rendez pas compte, hein, ça aussi, mais c'était fou. Bref, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait en fait le succès de l'IFA? Et pourquoi l'IFA, c'est important? L'IFA, c'est vraiment un salon grand public. D'ailleurs, il est ouvert au grand public, c'est pas un salon que professionnel. Il y a près de 300 000 visiteurs aujourd'hui, plus de 1 000 exposants. Et ce qui est intéressant dans l'IFA, c'est que ce qui est présenté dans l'IFA, et ce sont des produits qui sont commercialisés. Il y a très peu, il y a des annonces effectivement quand même de choses en recherche et développement, mais les grosses annonces, c'est vraiment des produits qui seront dans les échoppes dès le lendemain ou même au moment où ils en parlent. Et c'est pour ça que ça peut le rendre intéressant, parce que ça donne vraiment un instantané du marché de l'année. Alors, oui et non, c'est là où il y a une remise un petit peu en cause de l'IFA. Le truc, c'est que, en tout cas, c'est le sentiment que j'ai, moi, en tant que chroniqueur tech. L'IFA, bien sûr, j'aimerais y aller, je vais pas bouder mon... j'avoue que je m'en suis pas du tout occupé à me chercher un voyage de presse, parce que le problème, c'est que nous, on part sur la côte basque tout de suite après. Bref, j'y vais pas, c'est pour des raisons personnelles. Si j'avais pu y aller, j'y serais allé. Mais le truc que je pense quand même, c'est que d'abord, la plupart des constructeurs ne jouent pas le jeu. Beaucoup d'annonces sont faites avant, ce qui rend finalement, avant ou à d'autres moments, ce qui rend finalement les annonces de l'IFA, comment dire, généralement, le smartphone le plus excitant de l'IFA, c'est pas le plus excitant de l'année, quoi. Généralement. Samsung n'y annonce rien, Apple n'y annonce rien. Il y a certaines marques chinoises qui n'y annoncent plus rien. Tous les plus gros aujourd'hui font leur propre event. Ça leur coûte moins cher, ils maîtrisent mieux la communication autour. Et surtout, ils sont pas noyés dans une... Parce que c'est un peu le problème. Il y a une montagne d'annonces à l'IFA. Et ce truc, moi, j'ai jamais fait l'IFA, mais je l'ai vécu au CES. Quand vous êtes sur place, journaliste avec une toute petite équipe, c'est-à-dire seul, vous êtes noyé quand même dans un nombre d'annonces qui font que vous voyez pas très clair sur finalement ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on peut attendre quand même cette année dans les annonces au niveau des smartphones, les smartphones qui seront quand même annoncés à l'IFA? Le premier et un des plus attendus, c'est le LG V30. LG V30, ça sera le nouveau haut de gamme de chez LG. LG voulant dire Lucky Gold Star, pour ceux qui auraient oublié, hein, c'est donc une marque coréenne. Le LG V10 et V20 avaient fait des très bonnes impressions et des très bonnes critiques, mais ils n'avaient pas vraiment été distribués en Europe, donc on les a pas trop vus. Là, le LG V30 va être commercialisé, a priori, en tout cas c'est presque sûr, en France. C'est un enjeu assez important pour LG, parce que le LG s'est un peu vautré avec le G5, enfin gravement vautré avec le G5, disons-le. Le G6 a déçu, il a convaincu la critique, mais il n'a pas vraiment convaincu les consommateurs. Les chiffres ne sont pas de vente ne sont pas exceptionnels, malgré le fait quand même qu'il a de très très bonne qualité. Moi, je ne l'ai pas testé pour la chaîne, mais je sais que Guy me l'a montré, parce que c'est celui qui l'a, il y a des trucs vraiment pas mal. Le truc, c'est que le Galaxy S8 a bouffé quand même énormément toute la com, quoi. Ça a un peu vampirisé la com autour des Android, le Galaxy S8. Ce qui est attendu dans le V30 et qui peut être pas mal, bon, c'est des écrans borderless. Enfin, vous savez, ces fameux écrans qu'on peut plus prendre en main tellement il n'y a plus de bord. Mais ça, c'est une critique personnelle sur les excès de design de cette année. Un capteur photo avec une ouverture de f1.6. Vous vous rendez compte, 0,1 d'ouverture de plus que les autres. Ça va changer votre photo. Bon, on va voir, je veux pas être mauvaise langue. Mais... vous excitez pas sur une ouverture de 1.6. L'ouverture de 1.6, ça dépend de la taille du capteur, là encore. Donnez-moi les tailles de capteur, hein. Vous faites chier à pas donner les tailles de capteur. Mais sans taille de capteur, on peut pas juger, même sur papier. Enfin, déjà, il faut pas juger sur papier, mais sans la taille de capteur, tout ce qui est mégapixels, ouverture et tout ça, on peut rien dire. On peut rien dire du tout. Si le capteur est minuscule, ton F1.6, tu te le fous au cul, hein. Ça sera mon message de l'IFA de cette année à LG. Bref, donnez-moi des tailles de capteur et je parlerai de votre smartphone. La petite colère de Jérôme du matin. Ce qui est attendu également, le Motorola Moto X4 qui sera un milieu de gamme chez Motorola. Motorola qui fait des smartphones qui sont pas mal hein, sur papier, mais la hype, elle est pas vraiment au rendez-vous quoi. Très challenger Motorola. Alors c'est vrai que le X4 fait pas mal parler de lui. Ça sera un milieu de gamme, donc ça va être assez agressif au niveau prix. Il y aura un double capteur photo, là encore, hein, méfiance, parce que les doubles capteurs photo, c'est un peu devenu l'argument marketing bullshit pour pas mal de smartphones quand même. Hein. Je ne vais pas réénumérer les marques, mais autant le double capteur dans certains haut de gamme, j'ai trouvé l'expérience plutôt convaincante et assez excitante. Pour l'instant, sur des milieux bas de gamme, j'ai un peu trouvé qu'ils étaient sous-exploités, quoi. Et puis, ils sont, enfin, là où ils sont un peu naïfs, qu'est-ce qu'ils croient? Que nous, les testeurs, on va pas tester de mettre le doigt devant le deuxième objectif pour voir s'il est vraiment utilisé pour faire certains trucs, quoi. Donc, on verra. Ouais, ça manque un peu de souffle, hein, quand même, la gamme Motorola. Sony va arriver avec des téléphones qui ressemblent toujours à des téléphones des années 2000. C'est vrai qu'en termes de design, la Sony, il va falloir faire quelque chose. C'est à une certaine classe, hein, mais presque vintage, quoi. Ça ressemble à des Nokia qu'il y avait à l'époque des Windows Phone Nokia, quoi, un petit peu. C'est pas moche, mais ça fait un peu vieux, quoi. Et le problème, d'une manière générale, chez Sony, c'est qu'on le sait, ils mettent des technologies merveilleuses dedans. Ils sont quand même leaders sur les technologies, notamment ce qui est à photo. Le capteur, c'est Sony qui fait le capteur pour tous les autres constructeurs de smartphones, quasiment. Mais je sais pas, ils se vautrent pas mal, quand même, Sony, en faisant des décisions un petit peu bizarres sur leur téléphone. Leur téléphone manque de cohérence, en général. Ils sont assez innovants, c'était les premiers à faire un écran 4K sur un smartphone, mais sans avoir vraiment réfléchi à quoi ça va servir d'avoir vraiment un écran 4K. Donc Sony est beaucoup dans l'innovation pour l'innovation, sans vraiment penser à l'expérience utilisateur. Quelque part, Sony, c'est l'antithèse d'Apple avec les iPhones. Les iPhones innovent finalement très peu au niveau technologique. Ils adoptent des technologies que les autres ont lancées depuis très très longtemps, mais ils ont l'obsession chez Apple de l'expérience utilisateur. Ils n'embarquent pas une technologie si elle ne sert pas vraiment à quelque chose. Ils se sont vautrés parfois, mais c'est quand même la ligne de conduite d'Apple. Sony, c'est « Ouah putain, on a un truc que personne n'a, allez, on le met. » On ne sait pas à quoi ça sert, mais on le met quand même dans le téléphone. Ça fera bien sur la fiche de spec. Ce qui est peut-être le plus intéressant, je trouve, chez Sony, c'est le XZ1 compact. C'est-à-dire que Sony, et je pense qu'ils ont raison, continue à faire un concentré de technologie dans le plus petit form factor possible parce qu'il y a un marché pour les petits smartphones. Les gens qui ont des petites mains, les gens qui n'ont pas envie de s'encombrer d'un grand smartphone, ils sont généralement assez réussis. Bon, à part parlez-en à Karina, elle peste contre son appareil photo de son Sony. Mais sinon, ils sont assez réussis, assez... Non, Sony A9, c'est un appareil photo. Rien à voir. Et c'est vrai que la gamme Sony, on n'y comprend rien. Ils annoncent les trucs 6 mois à l'avance, donc quand ça sort, plus personne n'en a rien à foutre. Ils ont vraiment un gros problème de marketing. Ceux qui ont les autres qui ont un gros problème, c'est HTC. HTC va mal, il y a des rumeurs qui courent de rachat. On ne sait pas trop s'ils vont annoncer des trucs à l'IFA. On parle d'un modèle haut de gamme, le HTC U11. Est-ce que ça intéresse encore les gens, des téléphones qu'on peut presser sur les côtés pour que ça fasse wink-wink? Non, je suis méchant, mais j'ai pas vraiment compris l'intérêt de cette techno. Presser les bordures du téléphone pour accéder à certaines fonctionnalités, ouais. Bon, on verra, parce qu'il paraît que le Pixel va faire ça aussi. Donc, on verra bien, hein. HTC a mis, en tout cas, parle sérieusement de mettre en vente Vive. Ils n'ont pas encore mis en vente. Mais de toute façon, HTC va très mal. Leur problème, c'est pas tellement de revendre Vive, c'est plutôt est-ce qu'ils vont encore exister ou être revendus dans leur ensemble, en fait. Il doit y avoir un poste à prendre de responsable marketing chez Sony. Tu veux postuler, Jérôme? Bah, si je vais chez Sony faire du marketing, vous avez plus Texcope, hein. Est-ce que vous êtes sûr de vouloir ça? Si je prends un boulot comme ça, je pourrais plus faire de chaîne YouTube à côté. Ne serait-ce d'ailleurs que pour des raisons déontologiques. Non, Jérôme, ne trouve pas un boulot stable avec un salaire qui te permettrait de vivre. Hors de question. Je peux négocier. C'est pas une question de négociation, c'est que tant qu'on n'aura pas inventé la journée de 72 heures, ça sera juste pas possible. Ah, pour te dire, je préférerais bosser dans l'absolu, à l'âge que j'ai, je crois que je préférerais bosser pour une marque challenger que Apple, ça m'intéresserait pas énormément de travailler pour eux. Ça doit être hyper cloisonné, enfin, tu dois pas avoir grand-chose à faire chez Apple. Une marque un peu challenger, ça m'intéresserait plus. Si je devais chercher un boulot aujourd'hui, je crois que je serais plus attiré par des startups ou des choses où il y a vraiment des choses à inventer et à faire, quoi. Le youtubeur gagne bien sa vie. Je vais publier des extraits de mon compte bancaire. Vous allez voir si je gagne bien ma vie. Heureusement que j'ai encore quelques réserves pour tenir jusqu'à la fin de l'année. Et puis on verra la fin de l'année, mais c'est un autre sujet. Dernier smartphone qu'on peut attendre à l'IFA cette année, c'est chez Nokia. C'est pas officiel. Pour l'instant, il n'y a pas d'annonce. Beaucoup disent qu'ils vont peut-être annoncer le Nokia 9, un très haut de gamme chez Nokia au niveau Android. Il y a le retour quand même du Nokia 8. Moi, il ne m'excite pas tant que ça, les Nokia. Je suis très content du retour de Nokia, mais je ne sais pas. Ils ont l'air un peu banal quand même, hein. Mais, vous allez me dire, les smartphones sont un peu banals. C'est un peu le problème des smartphones. C'est qu'on a du mal à être un petit peu excité par les smartphones. On est là quand même à devoir faire des articles sur un truc qui fait F1.6 au lieu de F1.7 chez concurrents. Enfin bon, ça manque quand même. Enfin, ça sent le marché très mûr et un petit peu chiant. Et très encombré surtout. On verra comment le marché du smartphone évolue. Bref, vous dans la chatroom, très rapidement avant qu'on passe aux petites annonces, est-ce qu'il y a quelque chose que vous annoncez, vous attendez particulièrement à l'IFA, ou est-ce que ça vous excite pas plus que ça, quoi? Les écrans pliables, c'est marrant, j'y crois pas trop non plus. Moi, pour moi, la vraie grosse révolution d'un smartphone, ça serait des batteries qui tiendraient une semaine, quoi. L'iPhone 8. Mais ce ne sera pas à l'IFA. Un smartphone entouré autour du bras. Alors ça, c'est typiquement le genre de truc, quand on y réfléchit 2 secondes, je vois absolument pas l'intérêt, quoi. Tu connaissais pas l'IFA, Nat? Bah, pourtant, on en a déjà parlé l'année dernière et l'année d'avant, hein. C'est Kodi? Non, c'est l'Apple TV. C'est une application sur l'Apple TV qui donne là, si c'était ta question. Nouveau smartphone TechScope 1. Oula, je me lancerai pas sur le marché des smartphones, moi. Il y a trop de monde déjà. Avant, tu étais à fond dans les smartphones. Bah ouais, c'est plus les smartphones qui nous excitent. C'est plus les smartphones qui nous excitent. Et oui, tout change, mon bon monsieur. Oui, il y a une conférence Motorola hein, qui est prévue. J'ai pas les dates, mais de toute façon, je ne vais pas à l'IFA physiquement, mais vous doutez bien qu'on va couvrir l'IFA avec TechScope. S'il y a des annonces intéressantes, le lendemain, on vous en parle dans le TechScope. Comme chaque année. Allez, dans les petites annonces, on va faire les petites annonces aujourd'hui. Alors déjà, pour vous annoncer effectivement qu'on a ouvert un Discord officiel pour les gamers de Naotech. La ligne directrice de ce Discord, c'est qu'on veut vraiment le consacrer aux jeux vidéo, à ceux d'entre vous qui sont des gamers et qui veulent utiliser les fonctions vocales du Discord pour qu'on se retrouve entre nous pour jouer. Moi, je joue très rarement, mais c'est vrai que du coup, quand j'aurais envie de faire des jeux en équipe, je joue, comme je le disais, pas mal à Heroes of the Storm en ce moment. Si j'ai envie de monter une petite équipe, eh ben, j'utiliserai ce Discord. Donc, pour vous abonner à ce Discord, c'est bit.ly/discordnowtech. Normalement, le lien doit marcher, si je me suis pas gouré. Je joue comme un pied, ça dépend à quel jeu. Il y a des jeux où je suis pas mauvais. Non, je suis pas très bon à des trucs trop rapides, trop nerveux et trop précis. J'ai pas une coordination œil-main impeccable. Je suis pas un. Par contre, des jeux de stratégie, je suis pas mauvais. Donc, soit vous suivez le lien de Samuel, soit si vous nous écoutez en audio, vous pouvez taper bit.ly/discordnowtech. Les jeux chiants, ben, peut-être pour toi, mais moi, c'est tous les autres jeux que je trouve chiants. Il n'y a que les jeux de stratégie et éventuellement les jeux de rôle qui m'intéressent. Les FPS, ça me saoule au bout d'un moment. Ça m'amuse au début. J'avoue qu'Overwatch est rigolo parce qu'il y a un côté délirant. Et dans tous les sens, mais sinon les FPS ça me fait chier au bout d'un moment, c'est toujours pareil quoi. Total War c'est pas vraiment un wargame hardcore, j'aime beaucoup Total War parce que c'est un côté très spectaculaire, mais en termes de stratégie pure il est un peu stratégie action quand même. Donc voilà, le Discord nouveau est arrivé, Discord officiel de Naotech, consacré aux jeux vidéo. Bienvenue à vous si vous nous y rejoignez. Rapidement aussi, parce que je ne l'avais pas annoncé hier, j'ai oublié, il y a une nouvelle vidéo pour ceux qui l'ont ratée. Et si ça vous intéresse, une nouvelle vidéo sur la chaîne officielle. Et j'y teste une caméra 360, la Giroptique. J'ai testé ça quand j'étais à Cannes et je vous dis un petit peu ce que j'en pense et je rajoute d'ailleurs ce que je pense un peu du 360 en général. Et je vous demande d'ailleurs ce que vous pensez du 360 dans cette vidéo. Donc si vous avez raté la dernière vidéo de la chaîne officielle, elle est dispo depuis vendredi sur Naotech sur YouTube et pas Naotech Live parce que pour ceux qui ne serait pas au courant, vous n'êtes pas sur la chaîne principale. Là, vous êtes sur la chaîne consacrée au live. Vu par le biais du Slack. Ah oui, bah oui, sur le Slack, vous l'avez eu en exclusivité. Allez, on continue dans les articles. On va parler effectivement de... J'allais dire ironique. Yoniq, première smartwatch de Fitbit. Bon, comme toutes les smartwatches, parce que vous savez qu'encore plus que pour les smartphones, et c'est quelque chose que j'avais dit à l'époque où j'avais testé plusieurs smartwatches, l'esthétique d'une smartwatch, c'est quand même un élément hyper important. C'est quand même quelque chose que vous portez au poignet. C'est un accessoire de mode. Eh bien, voilà à quoi va ressembler l'Ioniq. Alors, vos avis, merci beaucoup Ricudo pour ton super chat, un petit billet pour encourager Jérôme et Naotech. Merci beaucoup Ricudo. Avec un C. Moche. Pas mal. Moche. Pas si moche. Une copie de la Gear 1. Non, elle ressemble pas trop à la Gear 1, je trouve. I2. Bien, moche, moche, hyper moche, joie, pas terrible, horrible, ce n'est pas rond, trop carré, ça va, anti-smartwatch off pour le sport, bof, j'aime pas du tout. Assez partagé, mais quand même, vous êtes une large majorité, on va dire, à la trouver moche. Je vous suis sur ce coup-là, je la trouve absolument hideuse. Design, début année 2000, tout en angle. Je trouve qu'elle n'est pas accueillante du tout, quoi. Elle est... Brrr. Mais bon, ça, c'est moi. Hein. Tout est carré, les boutons sont carrés, il n'y a aucune rondeur. Alors oui, la smartwatch, elle est... l'Apple Watch, elle est carrée quelque part dans son interface, mais il y a énormément de rondeur, quoi. Et moi, c'est ce que j'aime bien. Là, vous n'avez que des angles droits, on sent que ça va accrocher les manches de chemise, quoi. Merde, elle a disparu. Je vous la remontre. Oui, elle fait très avion furtif, je suis d'accord, avec des angles droits pour faire rebondir les ondes radar. Je la trouve très masculine. Quand je dis masculin et féminin pour du design, ça ne veut pas dire fait pour les hommes ou fait pour les femmes ou designé. C'est, pour moi, un design masculin, c'est angulaire, c'est des PC de gamer, c'est des choses comme ça. Pour moi, un design féminin, on va plus être effectivement dans des rondeurs, dans du bio, dans de l'organique, dans des choses comme ça. Je devrais d'ailleurs trouver d'autres mots que masculin et féminin parce que finalement, c'est pas génial comme qualificatif. Je trouve que ouais, elle fait très très guerrière, très beaucoup trop angulaire, quoi. Ça fait un peu montre d'espion gadget dans des films. Ouais, je suis d'accord. C'est un peu ça. Bon, qu'est-ce qu'elle va avoir à l'intérieur? Un écran tactile de couleur qui bénéficie d'une luminosité élevée de 1000 nits. Oh, 1000 nits! Des boutons physiques qui sont intégrés sur les tranches afin d'allumer l'ionique d'une part et de l'activer, de mettre les exercices en pause d'autre part. Au niveau des capteurs, il y aura un GPS, il y aura une puce NFC pour le paiement mobile, un cardio-fréquence-mètre, et même un capteur de taux d'oxygène dans le sang. Alors ça, c'est quelque chose qui devait y avoir sur l'Apple Watch, on en a beaucoup parlé, qu'ils n'ont jamais activé sur l'Apple Watch. Est-ce que Fitbit va le faire en premier? On verra. Pour Fitbit, ça sera utile notamment pour identifier les apnées pendant le sommeil. Il faut savoir, les apnées pendant le sommeil, ça peut être effectivement assez dangereux et pas très bon. Il y aura un espace de stockage de 2,5 gigas, pour pouvoir copier de la musique directement sur sa smartwatch. Une connexion Bluetooth pour utiliser un casque sans fil. bien sûr, tracker d'activité, hein, c'est une Fitbit, donc elle devrait être quand même à fond là-dessus. Elle est étanche pour la natation, une autonomie de 4 jours, 10 heures en utilisant le GPS. Ouais, donc vos 4 jours, c'est sans utiliser le GPS, quoi. Et sans utiliser le baladeur, il précise. Hein. 10 heures si vous utilisez le GPS et le baladeur. Sur papier, pas mal. Assez moche en design, à mon avis. Elle ne m'excite pas du tout. Je sais pas si vous, dans la chatroom, il y a des gens au contraire. Alors, après, j'ai envie de dire, quand on est Android, les smartwatches, il y a les Galaxy Gear, qui sont pas mal du tout. Mais on a l'impression que le monde Android, il croit... J'ai pas le prix, hélas, dans l'article, là, de la Ioniq. Si, 400 $. 400 $. Mais j'ai l'impression que le monde Android se désintéresse un peu des smartwatches. Pour eux, c'est un marché qui prendra pas. À 300 $, merde, je me suis gouré. Attends, désolé, Fitbit. Je vous fais de la mauvaise pub. 300 $, pardon. Enfin, 299,95 $. Putain, mais c'est quoi ces prix? Il faut arrêter de nous prendre pour des cons avec vos prix psychologiques de merde, là. 300 $. Allez, à 300 $. Et vous gardez les 5 centimes. Merci, madame. Bah écoute, moi je suis pas de cet avis. J'ai une smartwatch, l'Apple Watch, et elle m'est très utile et je la porte tous les jours. J'avoue que ça serait un manque si aujourd'hui la smartwatch disparaissait parce que j'ai trouvé une utilité à ma smartwatch. Elle a une utilité quotidienne. C'est pas immense comme utilité, c'est de l'ordre de l'accessoire, c'est-à-dire c'est pas indispensable, mais elle me rend quand même des services. Après, vous avez le droit d'avoir une opinion différente de la mienne, mais je la porte pas au poignet tous les jours juste pour dire « Ah, regardez, j'ai une Apple Watch », parce qu'à la limite, ça, je m'en fous. Et ça m'éviterait tous les gens « Ah, t'as une Apple Watch? Est-ce qu'elle donne aussi l'heure ?» Oh là là, cette blague-là. Oh là là. « Ah, mais est-ce qu'elle fait le café? Ah, mais est-ce qu'elle donne l'heure aussi ?» Oh là 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 là. Donnez-moi la Pebble. C'est fini, hein, Pebble. Hein. Bah, honnêtement, l'Apple Watch, elle n'a jamais quitté mon poignet. Je ne suis pas comme Patrick. Patrick, lui, au bout d'un moment, il a lâché l'affaire. Moi, en fait, d'abord, c'est vraiment des trucs cons, mais dans la maîtrise du temps, par exemple, le Texcope, vous ne le voyez pas, mais j'ai des petites alertes discrètes que je peux reprogrammer très rapidement pour savoir un peu où j'en suis dans l'émission. En fait, pour moi, l'Apple Watch me sert surtout dans la gestion dynamique de mon agenda sans avoir tout le temps mon smartphone à sortir. C'est un peu son utilité première pour moi. C'est vraiment une gestion intelligente du temps, en fait. Notifications, je m'en sers assez peu. J'ai des notifications vraiment importantes. Mais j'ai supprimé pas mal de notifications. Ça, c'était une fonctionnalité qui m'intéressait pas beaucoup. Plus de batterie, plus d'heure. C'est faux, Batix, parce que d'abord, je suis pas tombé en rade de batterie. Alors, je la mets à charger tous les soirs. Mais quand je la mets à charger, je suis généralement entre 60 et 40% de batterie qui reste encore hein, au bout d'une journée. Il m'est arrivé de tenir 3 jours en faisant un peu attention. Et j'ai tenu 4 jours, mais le quatrième jour, tu as un mode basse consommation, ce qui te donne au moins l'heure, en fait. Et c'est la V1 hein, que j'ai en moi. J'ai revendu la V2 que j'avais testée. J'ai gardé la V1. Mais ouais, non, j'en suis content. J'en suis content de mon Apple Watch. Et oui, elle me sert. Allez, on continue. On continue et on va parler rapidement parce qu'on va peut-être pas s'étendre là-dessus. Mais ils ont été annoncés quand même hier et surtout la grande nouvelle, c'est qu'ils sont dispo en France. Le Meizu Pro 7 et Pro 7 Plus sont dispo à la précommande dès hier soir à partir de 449,90€. Donc, c'est du flagship killer, hein, les Meizu. Ils sont assez intéressants. Je vais pas vous refaire toute la fiche de spec, mais avec... ce qu'ils ont de particulier et que je trouve assez intéressant, c'est le petit écran AMOLED qu'ils ont au dos. Petit écran qui va vous permettre de cadrage pour faire des selfies. Mais plus intéressant que ça, justement, si vous avez vu ma vidéo où je mets un miroir, ce que je dis, c'est que souvent, et c'est un grand regret que j'ai moi en tant que vidéaste avec les smartphones, c'est que les caméras qui sont au dos de nos smartphones sont beaucoup plus performantes que les caméras avant. La caméra avant ne sert pas que pour le selfie. Aujourd'hui, c'est vrai que le smartphone est quand même un objet de vidéo blogging assez intéressant. On échange beaucoup sur les réseaux sociaux. Et de pouvoir utiliser les bonnes capacités. Vous voyez, mon plus grand regret, c'est sur l'iPhone 7 Plus. J'ai enfin un capteur naturel d'équivalent dans les 50-60 mm, je ne sais plus l'équivalence de longueur focale. Un écran qui fait des beaux portraits, qui n'est pas trop justement grand angle, ce que j'aime bien. Mais je ne peux pas l'utiliser pour faire des portraits de moi parce que je n'ai pas de moyen de viser, quoi, en fait. Donc, le petit écran au dos, moi, je trouve que on peut pas parler d'innovation ou d'un truc de ouf. C'est peut-être une bonne idée. Après, est-ce que ça pèse sur la batterie? À voir. En tout cas, c'est quand même des téléphones qui embarquent beaucoup de choses. Pour 449€, double capteur, donc l'écran au dos et ce genre de choses. C'est quand même pas mal. Hein. Ils ont des écrans qui ont l'air bien, un peu borderless, juste ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'ils ont d'autre? Nouvelle technologie de recharge rapide qui permet de passer de 0 à 67% en 30 minutes. Mais je trouve que c'est surtout intéressant ouais, au niveau du prix. C'est ce que tu dis effectivement, Vaya, et je suis assez d'accord avec toi. En tout cas, sur papier, ils me font un peu la sensation que Honor m'avait fait avec le Honor 8 et que Honor ne m'a pas fait avec le Honor 9. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire un bon rapport qualité-prix. Maintenant, je ne l'ai pas testé. Ça m'étonnerait que je les teste, les maisons. Mais vous trouverez certainement plein de tests sur YouTube de mes collègues. Je sais que pas mal étaient... Je crois que c'était la soirée maison hier. Je crois que pas mal y étaient hier soir. Ouais, enfin, entre une technologie qui détecte un bon cadrage et avoir mon cadrage, je préfère avoir mon cadrage, personnellement. Mais... Non, mais moi, je serais presque pour le retour de technologies qu'on avait complètement oubliées, qui ont disparu dans les années 2000. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait un ou deux smartphones qui avaient essayé de faire le smartphone avec une seule caméra, mais qu'on pouvait pivoter de l'avant à l'arrière. Alors, c'était peut-être pas super bien implémenté. Je ne sais pas si, d'un point de vue ingénierie, c'est une aberration ou quoi que ce soit. Mais j'aimerais bien avoir... de pouvoir retourner mes caméras, ça serait pas mal, quoi. Ou je sais pas, tu vois, le haut du smartphone qui serait pivotable et on fait clac, comme ça. Parce que très honnêtement, ma caméra de façade, je l'utilise finalement assez peu par rapport à ma caméra dorsale, mais quand je l'utilise, j'aimerais bien profiter des qualités de ma caméra dorsale, quoi. Il y a eu un Oppo comme ça, ouais. Tu avais ça sur ton téléphone à clapet. Ouais, c'était un peu l'époque où... Un écran recto-verso. En fait, Vincent, ça revient un peu au même. Mais ça, ça serait le marketing qui dira. Soit c'est l'appareil photo qui se retourne, soit c'est ton écran qui se retourne par rapport à l'appareil photo. Mais ça, c'est le marketing qui te dira le vrai truc, en fait. Oui, il y a certains smartphones qui... Et moi, je trouve que ça, ça serait un truc que les constructeurs devraient faire. Le même capteur, la même optique devant comme à l'arrière. Le problème, c'est que maintenant, avec les doubles capteurs et tout ça, ça va commencer à ressembler à rien du tout, les smartphones. Si c'est comme ça, ça va ressembler au Lite L16 avec ses 16 optiques au dos, là. Ça va pas être Jojo. J'ai dit ça va pas être Jojo, j'ai pas dit ça va pas être Jojol. Hein ? Arrêtez de me faire dire ce que je n'ai pas dit. Tiens, j'ai plus de chatroom, je vous ai perdu. Mais laisse les gens faire des selfies. Si les gens ont envie de faire des selfies, eh bien qu'ils fassent des selfies. Les gens sont libres. C'est pas si mal le selfie. Tu sais, il n'y a pas vraiment de différence entre un selfie et un homme préhistorique qui a soufflé du pigment sur sa main sur un mur de grotte pour dire « Regardez, j'étais là ». C'est pareil. Le selfie, c'est une peinture de main d'homme préhistorique. C'est ni plus ni moins. Ça fait partie de nos réflexes humains de marquer le fait qu'on était à certains endroits. Voilà. Est-ce que l'homme préhistorique faisait un duck face pendant qu'il soufflait sur... Très homme préhistorique. Bref. Est-ce que des archéologues vont retrouver nos selfies et dire « C'est normal que la civilisation ait disparu à cette époque-là » Je n'en sais rien. Tu milites pour... Tu sais, Christophe, il y a peut-être un autre moyen. Plutôt que d'enlever les capteurs au dos, tu promeus le scotch. Mettez du scotch sur vos caméras avant. Voilà. Selfie, c'est la Joconde. Bah non, c'est pas la Joconde qui a pas la Joconde. C'est pas un selfie. Par contre, oui, un tableau de Léonard de Vinci par Léonard de Vinci, c'est un autoportrait, c'est un selfie. Il faisait ça avec des miroirs. Allez, on continue, parce que sinon on n'arrivera pas au bout. Volkswagen, une histoire assez inquiétante. à plusieurs niveaux. En fait, alors, pour l'instant, rien n'est arrêté dans le marbre, mais il y a un procès en cours autour de l'affaire Volkswagen. Vous savez, les histoires des émissions polluantes de certains de ces moteurs. Gros scandale. C'était il y a un an à peu près. Ben dans les procès qui ont cours, eh bien, le développeur qui a mis au point les systèmes de contrôle des émissions polluantes vient d'être effectivement condamné vendredi à 3 ans de prison, 40 mois de prison, 200 000 dollars d'amende dans son rôle dans l'affaire Volkswagen. Alors, du côté du développeur, il dit, attendez, moi j'ai développé les trucs que mon patron, et donc que Volkswagen, m'a dit de développer. Ce à quoi le procureur fédéral a dit, non, vous occupiez un rôle central dans la conception des systèmes de triche. Et quand bien même c'était un ordre qu'on vous avait donné, vous n'en avez pas averti, vous n'avez pas refusé de le faire. Alors, c'est très délicat comme affaire. Et finalement, on s'est tous plus ou moins retrouvés dans cette situation. Mais là, mettez-vous dans cette situation. Quand je dis on s'est tous plus ou moins retrouvés dans cette situation, votre patron vous dit de faire un truc qui est quand même complètement con. Vous le savez, mais vous le faites quand même parce que c'est le patron, il faut le faire, quoi. Quand c'est juste quelque chose de complètement con, à la rigueur, c'est pas trop grave. Par contre, si votre patron vous demande de faire quelque chose d'illégal et qui vous dit si tu le fais pas, tu vas perdre ton job, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? C'est quand même pas évident. C'est quand même pas évident. Mais il faut savoir qu'effectivement, votre responsabilité peut être quand même engagée. C'est pas parce que, effectivement, nul n'est censé ignorer la loi, mais au-delà de ça, si votre patron vous demande de faire quelque chose d'illégal, vous n'avez pas à obéir à votre patron. Oui, c'est le risque de perdre votre job, mais le risque de faire un truc illégal peut être beaucoup plus grand. Au moins, les fonctionnaires sont protégés. Ben oui, les fonctionnaires, c'est Chabit. Fonctionnaires, voilà, ça sera le mot du jour. Les fonctionnaires, c'est Chabit tout le temps. Mais ça pose quand même un gros problème, parce que réfléchissez même sur toutes les histoires qu'il y a. Si maintenant le développeur peut être mis en cause quand il y a parce que souvent le développeur il a peut-être pas une vision globale et justement on lui dit pas, je te fais faire un truc illégal. Parfois il s'en aperçoit pas. Et on en avait parlé à l'époque des voitures autonomes. Est-ce que la responsabilité du développeur qui va développer les programmes d'intelligence artificielle qui vont décider si tu dois tuer le gamin qui traverse devant le tunnel ou le conducteur en l'écrasant contre la paroi du tunnel quand il n'y a pas le choix? Est-ce que la responsabilité du développeur pour homicide sera engagée? C'est une vraie question juridique. Perdre son job, passer pour une balance, être blacklisté dans les autres boîtes, oui. Oui, mais en même temps, 200 000 dollars d'amende et 3 ans de prison, c'est pas top non plus. Oui, ou alors vous faites comme Sidali, vous négociez 3 zéros de plus sur votre feuille de paye pour rien dire. Vieux mode. Vaut mieux développer des jeux, c'est moins risqué. Ah, pas sûr, Pascal. Il peut y avoir des scandales aussi autour de jeux. Ouais, mais le truc, c'est là où l'histoire, on n'a pas tous les tenants, les aboutissants. Le truc, c'est que le mec, quand on lui a. On peut pas savoir, mais le développeur, quand on lui a dit, tu fais ça. Peut-être que, alors, soit deux cas de figure, il a dit, mais les gars, c'est un peu illégal de faire ça. On lui a dit, ta gueule, tu le fais, sinon, t'es viré, dehors. Et il l'a fait. Auquel cas, il est quand même conscient qu'il faisait quelque chose d'illégal. Auquel cas, il s'est, en même temps, on lui dit de trafiquer les chiffres. C'est un peu dur de pas savoir que c'est illégal, quoi. T'es sûr de te faire virer, mais t'es pas sûr de te faire attraper. Ouais, non, mais là, c'est... Après, c'est ta moralité à toi aussi, hein. Il y a... Chacun est devant sa moralité. Moi, je sais que personnellement, et ça a conduit toute ma carrière, toute ma vie et tout ça, j'ai... Dans... Alors, vous vous dites, dans le métier de publicitaire, on peut rien faire d'illégal. Sachez que si. Il y a un boulot, il y a même deux boulots que j'ai refusé de faire dans ma carrière. Un où le client nous demandait vraiment de pigeonner les gens. C'était un truc pour un abonnement à quelque chose. Et en gros, il nous a demandé clairement de faire la publicité pour que les petits vieux se trompent en faisant cette pub et en croyant se désabonner qui s'abonnait. Donc, c'est... Et la deuxième chose pour laquelle j'ai refusé de travailler, c'est pour des cigarettes, pour de la pub pour cigarettes. C'était déjà interdit à l'époque, mais il y avait encore des moyens de faire de la pub. C'était un très gros budget pourtant, mais j'ai refusé de faire la promotion des cigarettes. Je me suis pas fait virer, mais c'est vrai que mon patron m'avait pas la bonne après, quoi. Donc, mais bon, ça c'est moi. Pour moi, le plus important dans la vie, c'est de pouvoir se regarder dans le miroir le matin. C'est pas d'être sécurité de l'emploi ou machin. Je sais, c'est facile à dire ça, mais bon, quand même, moi, mon regard sur moi-même dans le miroir le matin est quelque chose d'hyper important. Et ça a pour l'instant conditionné toutes mes décisions. C'est-à-dire, j'ai besoin de pas avoir honte de ce que je fais, quoi. Et effectivement, avoir bonne conscience, c'est quelque chose de super important pour moi. Bref, on est parti un petit peu loin, mais c'est vrai que si jamais ce truc est confirmé, la jurisprudence la trouve un petit peu dangereuse. On verra, on verra. Allez, on va parler de Sarah. Ah, rapidement, nouveau phénomène des adolescents. Si vous n'êtes même pas au courant, vous ne savez pas ce que c'est que Sarah A, vous n'êtes pas un adolescent. Sarah A, oui, c'est comme ça que ça se prononce. Le principe de Sarah, c'est que c'est un peu comme Snapchat, mais c'est pas comme Snapchat. En gros, vous faites votre profil, vous montrez qui vous êtes. Je ne l'ai pas essayé, hein. Mais en gros, vous faites votre page Sarah et ensuite, vous envoyez à des gens qui peuvent dire ce qu'ils pensent de vous de manière anonyme. En gros, ça répond à l'angoisse du pré-ado et ado, comment les autres me voient ? Qui je suis avec ma voix qui mue ? Non, je me moque pas des ados. Je l'ai été aussi, hein, croyez-le. J'ai pas toujours été vieux, hein, j'étais ado aussi. Et le principe cartonne. Effectivement, c'est aujourd'hui une des apps qui grimpe le plus vite dans le store. Et les ados adorent le concept de gens qui anonymement vont donner un avis sur eux. Là où c'est un petit peu plus... Alors tout ça se passe effectivement, les fameux messages qui disparaissent, donc ça prête pas à conséquences, on peut être anonyme, bref. Tout pour amener les ados et les trolls, hein, ça va de soi. C'est un peu le club des futurs suicidés, moi. C'est ce que je me suis dit quand on m'a pitché sur cette app. Déjà qu'un ado, généralement, l'image qu'il a de lui-même, c'est pas top. Si en plus, il la met en pâture, vu la méchanceté des gens entre eux, il va s'en prendre plein la gueule. Surtout les attaques physiques, quoi. Eh bien, non seulement vous trouvez ça dangereux, mais vous allez encore le trouver plus dangereux parce qu'a priori, il y aura un vrai problème de collecte de données personnelles. C'est que il collecterait des données, notamment du carnet d'adresse, alors qu'il n'en a pas du tout besoin dans son fonctionnement. Le développeur se défend, dit « Ah non, mais c'est une vieille, ça c'est une erreur, la fonctionnalité va être supprimée parce que vous l'avez trouvé... Non, dans la prochaine mise à jour. De toute façon, on l'a jamais vendu, on n'a jamais vendu ces données, machin. » Ah, mais mec, il faut être un petit peu plus clean que ça aujourd'hui, hein, on n'est plus non plus en 2000, hein, les données personnelles, on n'a pas... Soit on signe, il faut que ça soit clair, qu'on te donne nos données personnelles pour nous offrir un service gratuit derrière, mais il faut que ça soit clair maintenant, hein. On nous la fait plus maintenant.
Et puis, le problème, et je pense que c'est là où il va flipper un peu le développeur de l'app. Le problème avec ces apps, si d'ailleurs vous regardez Silicon Valley, c'est un peu ce qui arrive à leur application aussi de vidéo chat. Ce genre de truc risque d'attirer pas mal de mineurs. Et beaucoup de pays ne plaisantent pas avec les données personnelles des mineurs. Et ça, ça peut faire très, 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 très mal. D'une manière générale, moi, c'est le truc, enfin, ce genre d'app, les mineurs, enfin, vous voyez, on voit tout de suite les dérapages possibles, quoi. Là, je veux dire, c'est le Tinder du pédophile, hein. Oui, il faut tout revendre la gamine. À Oli. Revends vite ton appli à Oli. Ceux qui ne regardent pas Silicon Valley ne peuvent pas comprendre. Mais ouais, dans les faits, je la trouve assez dangereuse comme app. Mais bon. Les ados aiment bien les trucs dangereux, hein. Vous parlez à un mec qui a failli perdre sa main à cause de pétards, hein. J'en ai fait des conneries quand j'étais ado. Ah, si je vous racontais. Plusieurs heures de live. Qu'est-ce qu'on est con quand on est ado, putain. Ah là là, si je vous racontais. Un compte iTunes. Ah, vous êtes en train de parler de la... Oui, non, mais c'est normal. Un ado qui fait pas des conneries, c'est pas un ado. Et il faut la passer, l'adolescence. Sinon, l'âge adulte se passe mal. Il n'y a rien de pire que les adultes qui continuent à faire des conneries d'adolescents. Allez, et qu'à tout prendre, je préfère un jeune con à un vieux con. Mais on fait quand une émission spéciale sur les conneries juvéniles? Non. Pas donner des mauvais exemples, ni des mauvaises idées. Parce que j'en avais des idées, hein, je peux vous dire, pour les conneries. Tu connais des ados qui sont très bien. Bah, méfie-toi, Macalda. Un ado qui se tient à... Généralement, il cache un secret énorme. Et qu'il est en train de faire une grosse connerie. Non, je... Oui, ouais, mais les ados qui font pas de conneries, ils sont un peu chiants quand même. Un ado, c'est l'âge des excès. C'est l'âge où il faut en faire, quoi. Bon, alors effectivement, tu risques de te tuer un peu dans le process. Mais ça fait partie du jeu. Non, laissez les ados être cons. Ça fait partie des libertés fondamentales de la vie. Allez, on continue et on termine d'ailleurs. On va parler des flics de New York. Et pourquoi je vous parle des flics de New York? Bien, vous ne le saviez peut-être pas et vous en foutez complètement, mais sachez qu'ils étaient équipés de 36 000 Windows Phone. Ouais, super, des Windows Phone. Et puis, un an après, ah, nous avons des Windows Phone. Windows Phone qui tournait sous Windows Phone 8.1. Ah, merde! Microsoft a décidé de l'arrêter. Alors, merci Microsoft d'avoir refourgué à un marché public 36 000 Windows Phone et d'abandonner ton système juste après. Effectivement, les flics de New York étaient équipés de Nokia Lumia 830 et des Lumia 640 XL. Équipés avec des applications spéciales qui avaient été développées pour eux, eh bien, ils sont obligés de les abandonner, notamment pour des questions de sécurité, puisque, effectivement, Windows Phone ne sera plus développé pour ces modèles-là. Donc, ils vont passer à l'iPhone. On ne sait pas encore quel iPhone ils vont prendre. On sait juste, et c'est là où je vais me mettre à supputer. Je vous avais teasé sur la supputation. A priori, ils vont switcher après l'iPhone 8. Mais en même temps, je vois mal les flics s'équiper d'iPhone 8. Ça serait trop cher. Ça ne sera pas des 5C non plus, parce qu'Apple les laissera pas s'équiper sur un marché public de 5C. Donc, ça veut dire deux choses. Ça peut quelque part confirmer, effectivement, l'arrivée d'iPhone 7S. Mais moi, et c'est mon pronostic, ça confirme plutôt l'arrivée d'un modèle SE. Effectivement, d'un 7 SE. Je pense, et je ne sais pas si Tim Cook a eu ce raisonnement-là, j'espère, parce que je pense qu'Apple a vraiment une carte à jouer, de proposer l'expérience Apple avec certains composants du téléphone de l'année dernière, rebrandé dans un corps plus petit, et pour avoir un prix de revient, ou un ancien corps en fait, pour avoir un prix de revient en dessous des 500 euros, ça serait vraiment, vraiment bien. Non, ils n'auront jamais des iPhone Pro. Tu sais, des marchés publics comme ça, on ne va pas leur donner non plus du très haut de gamme, quoi. iPhone 7 SE, ça serait différent d'un iPhone 7 parce que il n'y aura pas le double capteur. Peut-être, et on le sait, sur un form factor de SE, il n'y aura pas le Force Touch, par exemple. Il y aura un certain nombre de fonctionnalités qu'il n'y aura pas, qu'on a sur les iPhone 7. Exactement comme l'iPhone 6 SE. Ouais, c'est marrant, moi, mais je me trompe peut-être. J'y crois pas trop à l'iPhone 7 S en même temps que le 8. Par contre, je crois assez à un iPhone SE deuxième génération en même temps que l'iPhone 8. Ça, j'y crois assez. Mais on verra. On verra bien. Malgré toutes les rumeurs, je continue à dire, on verra bien. Le SE, c'est pas vendu. T'as pas les bonnes infos, Chris. Le SE, c'est vendu comme des petits pains. Il s'est très, très bien vendu, le SE. Il a même rattrapé les mauvaises ventes du 6S. Pour le chiffre d'affaires d'Apple. Il s'est très très bien vendu le SE. Justement, pour un smartphone qui a demandé aucun frais en développement, très très peu de frais en développement, c'est une très belle, un très beau coup de la part d'Apple, le SE. Ah, j'ai mal lu ce que tu voulais dire, pardon. Excuse-moi. Le SE ne s'est pas vendu parce qu'il était compact, mais, ah oui, pardon. Mais parce que c'était un... Ah oui, oui, tout à fait d'accord avec toi. Alors, il s'est vendu, mais je suis d'accord avec toi. C'est plutôt, justement, les gens ont tellement en tête, un iPhone, c'est trop cher, un iPhone, c'est trop cher, un iPhone, c'est trop cher. Ah tiens, Galaxy Note 8, ils sont plus chers. Un iPhone, c'est trop cher. Que finalement, on leur proposait un iPhone 9, parce qu'il était quand même 9, à moins de 500 euros, c'était une super OP de la part d'Apple. T'es à la Fnac et c'est l'iPhone le plus vendu. Brainfuck, si on m'a dit un jour que je parlerais à Brainfuck, tu l'as vu dans mes tests de l'iPhone. Moi, c'était ma recommandation 2016-2017 en iPhone, c'était de prendre le SE. C'est pour moi le meilleur rapport qualité-prix qu'Apple ait jamais fait, quoi. Avec l'iPad. L'iPad, Apple a un excellent rapport qualité-prix. Je trouve, je vais en choquer certains pour qui Apple c'est forcément trop cher, mais au niveau iPad et iPhone SE, je trouve qu'il y a un prix qui est intéressant en termes de bon rapport qualité-prix. Après, je suis le premier à dire que les iPhone 8, 7, machin, sont très chers par rapport à ce qu'ils font. Voilà, voilà. On verra bien. De toute façon, les annonces, a priori, c'est le 12 septembre. Pas encore de confirmation, pas d'invitation reçue, mais les rumeurs se précisent autour du 12 septembre. Et c'est la fin de ce Techscope. Je vous remercie de l'avoir suivi et présenté grâce à vos interventions dans la chatroom avec moi. On va passer au Q&A. 10, peut-être 15 minutes à répondre à vos questions. Si vous avez des questions, c'est maintenant. Et puis, si vous nous quittez, on se retrouve. Et demain matin, je serai avec Marion, normalement, pour vous présenter Techscope. Et je voudrais remercier, j'ai oublié de le faire hier, les super chats du jour. Ah, Paladin Bleu, je t'avais pas vu. Baptiste, qui nous a fait un super chat du Canada, Paladin Bleu, du coup la taille compte, qui nous a fait un super chat, et Ricudo également, merci pour vos super chats les gars, ça met du beurre dans les épinards, et oui, j'aime les épinards. Donc, même pas la peine de me poser des questions. Mais j'aime les épinards avec du bacon, de la crème fraîche et des lardons. Donc, c'est pas les épinards super sains non plus. On dit Ricudo. Kudo. Bah, c'est ce que j'ai dit, non ?
Les bénévoles, Samuel, si vous voulez faire partie de l'équipe des bénévoles, écrivez au mail que Samuel est en train de vous donner, bénévole avec un s.nowtech@gmail.com. Paladin bleu, il rend l'argent. Ouais, tu m'étonnes. Plutôt Montblanc ou Faber-Castell. C'est quoi pour les... Montblanc, je connais que Montblanc, je ne sais pas ce qu'ils font, Faber-Castell. Pour les... C'est des montres ? Je connais absolument rien au monde de luxe, quoi. Le lien du Discord, c'est bit.ly/now... Merde, qu'est-ce que j'ai dit ? bit.ly/discordnowtech. C'est des stylos, tu sais, moi, mon stylo, c'est l'Apple Pencil, hein, maintenant. Regardez, dans sa petite housse, d'ailleurs, que je peux attacher. Hein, regardez, je peux mettre un Apple Pencil autour du front. Hop, très pratique, ergonomique. Et hop, voilà. Classe, hein. Je peux également... Oh, mon Dieu. Ouais, là, Oleg se dit, ça y est, on a perdu Jérôme. Je peux également, hein, en cas de conflit. Bref. N'importe quoi. Non, en fait, ça sert... Vous voyez, ce truc-là, ça me permet d'attacher mon Apple Pencil à la cover très facilement. Démonstration. Allez, est-ce qu'il y a d'autres questions avant que je fasse trop de conneries ? Apple Pencil est moins cher qu'un Mont Blanc. Oui, mais pas de beaucoup. Pourquoi tu fais le direct que le matin ? Parce que pour le soir, ça serait très très chiant. Parce que ça nous bloquerait le soir. On ne pourrait pas avoir des activités, on va dire, normales. Et le matin, on le fait à cette heure-là pour pouvoir avoir une journée de boulot normale derrière. C'est quand même 3 heures de boulot, donc il faut les caser dans la journée. Je détesterais faire ça le soir. L'iPad aurait des aimants. Oui, je suis d'accord. Le fait qu'ils aient rien prévu pour leur pencil est une aberration de design pour moi. La pochette pour l'Apple Pencil, envoie-moi un tweet. Je t'enverrai le lien d'affiliation pour acheter ce type de truc. Alain. Non, puis vous avez déjà beaucoup de trucs à regarder le soir. Généralement, les YouTubers publient plutôt le soir. Quand j'ai lancé Techscope, le créneau du matin n'était pas vraiment pris. Et pour faire, je trouve qu'une matinale, ça a une vraie fonction. Alors, je sais que tout le monde ne peut pas la regarder le matin, et certains, c'est en replay le soir, mais je trouve qu'une matinale, ça... Je sais pas, j'aime bien l'idée de vous accompagner pendant votre petit-déj. Est-ce qu'une demande d'autorisation de voyage ESTA approuvée pour éviter de demander un visa classique ? Il n'y a plus de visa, Serge, pour les États-Unis. C'est l'ESTA maintenant. Le visa, c'est l'ESTA. Mais attention, hein, il faut que tu sois sûr. Et fais gaffe aux faux trucs ESTA. Tu n'as rien à payer, hein, normalement, pour l'ESTA. Si on te demande de payer, tu n'es pas sur le bon site. Peut-on faire sauter la limite de coupe de fichiers 4 gigas sur... Non, parce que c'est du FAT32, langue de geek. J'ai vu que tu m'avais posé la question sur le Slack, j'ai pas eu le temps de te répondre. Non, mais c'est pas grave, sur ton logiciel de montage vidéo, moi je prends tous mes fichiers 4 gigas et foum, sur la timeline, et j'ai plus de coupe, quoi. Mais non, c'est impossible de pas avoir cette coupe de 4 gigas. Ah si, oui. Tu dois payer, ouais, mais c'est pas bien cher, c'est ce que je veux dire. Mais les sites qui te vendent des trucs pour finaliser ton ESTA ou machin, c'est des pièges à cons, en fait. Oui, $15, pardon.
Mais il faut être sur le site officiel. Mais méfiez-vous, il y a beaucoup de sites non officiels.
Question, un bon portable avec surtout l'appareil photo bien pour moins de 400-500 €. Tu sais, généralement, le premier truc sur lequel ils font des économies, c'est l'appareil photo. Hein. Désolé de te l'annoncer, mais le OnePlus 5 n'est pas mauvais en photo. Il n'est pas extraordinaire, mais il n'est pas mauvais. Peut-être un Galaxy. Galaxy, mais S7 à ce moment-là. Ou un iPhone d'occasion. Hein. T'es pas obligé d'acheter quelque chose de neuf. Hein. Ouais, ouais, un bon vieux Galaxy S7 à 500 €, c'est pas mal. Bah, le Honor 8, par exemple, faisait des photos pas mal du tout pour son prix hein, l'année dernière. Hein. Et aujourd'hui, un Honor 8, tu dois en avoir à moins de à 200 €, hein, sans problème. Hein. Ah, mais si vous voulez acheter du neuf en plus, les gens, faut pas demander. Là, vous, c'est même plus la quadrature du cercle que vous demandez, quoi. C'est carrément l'impossible. Alors, je voudrais un téléphone qui fait des super photos, qui marche super bien, qui a une batterie qui dure, avec un écran qui marche super bien au soleil, avec de l'innovation, parce que sinon, j'ai un peu la honte. Je veux qu'il soit neuf, bien sûr, qu'il soit joli, et je voudrais qu'il soit à moins de 200 €. Merci de me répondre rapidement. What? Xiaomi, ouais. Xiaomi, leur prix monte, hein. De toute façon, écoutez mes tests et je vous le dis, je vous le redis, mettez-vous ça dans la tête. Tous les smartphones font des bonnes photos, dans de bonnes conditions. Bonne condition, c'est 90% des photos que vous faites. Il fait beau, il y a du soleil, je prends mes enfants sur la plage. Le 10% qui reste, c'est vos photos de soirée. Là, il faut du smartphone haut de gamme pour pas avoir des flous ou du bruit. Mais finalement, ça s'arrête là. Et à la limite, vous voulez prendre des photos de soirée, vous prenez une lampe chez vous, hein. Vous faites des photos originales en soirée, vous demandez aux gens de tenir une lampe à côté d'eux comme ça, et vous les prenez en photo avec votre smartphone à 200 €, vous aurez des très bonnes photos. Arrêtez de vouloir prendre des photos dans le noir. Rappelle que photographe, ça veut dire sculpter la lumière. Sans lumière, il n'y a pas de photo. Mais rien qu'une bougie. Putain, il faudrait. Voilà une vidéo que je devrais faire. Vous avez un smartphone qui fait des photos de merde, ben je vais vous montrer comment il peut faire des bonnes photos même en soirée. Même à la bougie, vous pouvez éclairer un visage. Avec un autre smartphone, regardez, je vais vous montrer un truc. Hop, je mets mon iPad à fond. Regardez la luminosité que j'arrive à ramener sur un visage. Alors c'est sûr, mais ça peut faire des photos marrantes. Vous faites des photos de tous les gens comme ça dans une soirée. Hop, et vous aurez leur visage, ils ne seront pas flous. Puis en plus, vous aurez des photos originales. La lumière. La messagerie Tipeee ne fonctionne pas. Ah merde, il faudrait que tu demandes à Tipeee alors, parce que c'est pas nous Tipeee. Tu demandes à Tipeee si ça marche pas. Tu leur envoies... C'est pas l'appareil qui fait le photographe, mais l'inverse. C'est un tout petit peu plus nuancé que ça. Parce qu'il y a quand même une petite dose de technicité qui rentre en compte. Mais on va dire que allez, 80% de la photo, c'est le photographe. La lumière anoblit tout ce qu'elle est fleur. C'est très beau, Florian. C'est très, très beau. Mais c'est vrai que... C'est beau, d'ailleurs, que mon photographe, ce que ça veut dire. Sculpter la lumière. Faire des photos en noir et blanc comme Karl Lagerfeld avec un Arcos à 69 €. Oui ! Oui ! Putain de oui ! Ce que tu pourras pas faire, c'est des photos genre « Oh là là, on dirait qu'il fait plein de jours dans Paris. » J'utilise Style. Oui, je l'utilise.
Alors, efficace, ben pour l'instant, on m'a pas volé mes affaires. Donc, difficile de te dire si c'est efficace. Et ça, le truc, c'est que mes deux tiles sont dans mes sacs photos. Donc, c'est pas... Alors, si, j'en ai mis un sur un porte-clés. Oui, si, j'en ai un sur un porte-clés. Et ça m'a aidé à retrouver mes clés une fois. Le Canon 200D, oui, il est pas mal, mais... Il n'y a rien d'excitant, je trouve, chez Canon. Mais bon, si t'as déjà des objectifs Canon, ouais. Mais sinon, putain, allez voir les hybrides, il y a des trucs beaucoup plus intéressants. Je trouve. Et tous les hybrides, pas que Panasonic. Olympus, c'est sympa aussi. Fuji font des très très bons, des très bons produits. Sony. Voilà, je trouve que c'est plus intéressant pour débuter, mais bon. Et effectivement, comme le dit Florian, hein, le conseil, à la limite, achetez-vous des boîtiers pas chers, mais achetez-vous des bonnes optiques. C'est l'optique qui va faire beaucoup plus votre photo que votre boîtier. Mais comme les gens ne le savent pas trop, ils me demandent toujours l'avis sur les boîtiers. Mais en fait, et d'ailleurs, je vais peut-être commencer à en faire. C'est plutôt des tests d'objectifs qu'on devrait vous faire. C'est tellement l'objectif qui va faire votre photo, c'est hallucinant. Le Sony A9, c'était un bon appareil photo, c'est un mauvais en vidéo, c'est bien pour les sportifs. Voilà. Mais c'est pas... Alors, c'est un... Pour moi, c'est le 7D killer, quoi. Mais c'est pas un killer de tous les appareils photo, quoi. Ah oui, effectivement, si je vois quelqu'un avec un 5D Mark III ou Mark V ou Mark IV avec un objectif de kit. Après, les objectifs de kit sont très intéressants pour certaines choses. Notamment, si je suis en vacances et que je vois quelqu'un avec un Canon 5D avec un objectif à 2000-3000 euros, j'ai envie de dire touriste, quoi. Tu vas te faire voler ton objectif, c'est tout ce qui va t'arriver. Moi, voilà, sur mes boîtiers chers qui m'arrivent d'amener en vacances, je vais plutôt privilégier d'amener mon objectif de kit. Ne serait-ce que pour être plus discret. Et puis, un objectif de kit, c'est bien pour les photos de vacances. C'est très bien. Puis, ça résiste à tout. Et effectivement, comme le dit Florian, encore une fois, l'avantage des optiques, c'est que ça vieillit pas. Les boîtiers, ça vieillit. 2 ans après, il vous paraît obsolète, votre boîtier. Une optique, ça vieillit jamais. Bah, le 50 mm f1.4 sur 5D, oui, c'est bien ça. Ça va bien avec une bague d'inversion pour faire de la macro de temps en temps. Oui aussi, c'est un... Mais chez Canon, les objectifs de kit sont moyens, très moyens. Mais Oleg, je peux te dire que... Alors, je vais encore citer Panasonic, mais les derniers objectifs de kit qu'ils ont fait, et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est les numériques ou d'autres testeurs, sont pas mal du tout, hein, leurs objectifs de kit. Hein. Allez, je vais vous laisser. Je suis en tournage aujourd'hui. Putain, j'espère qu'il va pas faire trop. C'est quoi ce temps gris pourri là? Je croyais qu'il allait faire beau. J'ai un tournage à faire moi. J'aimerais qu'il fasse. Quoique non, pas trop de soleil. C'est pas bon le soleil. Après, on est obligé de tourner à l'ombre. Merci à vous et on se retrouve demain matin. Passez une excellente journée. Je vous fais la bise. Ciao tout le monde. Cramé de ouf. Attention, cramé de ouf. Ciao tout le monde.